Avec, pour cette session, santé et solidarité, quelle place pour l'interhumain ? Et je remercie donc le docteur Moutel et le monsieur Tanguy Châtel d'être venus donc nous présenter leurs pensées et leurs travaux sur ce sujet. Grégoire Moutel a la chance de pouvoir faire de la recherche en éthique médicale et de la recherche en éthique médicale appliquée, puisqu'il est aussi le médecin coordonnateur de la PASS de Corentin-Celton. Et tandis que Tanguy Châtel, lui, est un sociologue qui s'intéresse surtout, enfin, dans le domaine de compétences et de recherche, et celui de l'accompagnement. De l'accompagnement donc humain, et en particulier de l'accompagnement en fin de vie, mais qui se décline dans tous les modèles d'accompagnement, et ici dans le cadre de la vulnérabilité qui est notre sujet. Donc je vais donner la parole d'abord à Grégoire Moutel sur ce sujet.
Bien, merci beaucoup. Merci également à l'ensemble des organisateurs pour la qualité de la journée du programme. Je voulais juste, avant de commencer mon propos, faire une petite remarque sur la discussion de ce matin, et en particulier rebondir sur le cas qu'a présenté Hélène de Champs-Léger, pour dire que dans la discussion de salle, nous avons tous implicitement acté, y compris mon collègue professeur Misset, qu'un patient sans logement aujourd'hui n'était plus redevable d'une hospitalisation au sens de l'assistance hospitalière telle qu'historiquement elle était fondée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Quand j'étais interne et chef de clinique, donc c'est pas si vieux que ça, quoique ça évolue comme pour nous tous, c'est des patients où mes patrons de médecine interne, me disaient « mais le manque de logement est un critère d'hospitalisation ». Et quand on faisait non pas des RCP, mais des staffs sur les dossiers des patients, ça nous permettait effectivement de dire « ceux-ci, on les garde dans le service » ou « ceux-ci, on les fait ressortir ». Et aujourd'hui, constat est acté que, un, ils ne sont pas hospitalisés, ou quand c'est le cas, on les fait systématiquement sortir. Et je pense que c'est dans ces zones implicites, dans ces zones d'ombre, dans ces non-dits, que peut-être l'éthique des pratiques doit être réinterrogée, parce qu'une de nos collègues jeunes internes devenues praticiennes disait « on nous apprend l'évidence-based médecine ». Attention, attention, parce qu'on nous apprend aussi l'évidence-based médecine économique aujourd'hui. Et là, je pense qu'on sort du terrain du soin, dangereusement. Voilà. Alors aujourd'hui, l'autre élément du propos qui m'a été confié par le comité d'organisation, c'était d'éclairer un terme barbare, l'interhumain. Et quand il y a eu le comité d'organisation, ils se sont dit « mais c'est quoi ce terme ? Il faut le faire sauter ». D'ailleurs, je crois que c'est encore Hélène de Champs-Léger, vous voyez qu'elle est partout, Hélène, qui m'a dit « mais Grégoire, tu ne peux pas faire plus simple qu'interhumain ». Alors très rapidement, interhumain, effectivement, ça pourrait être réductible à la question de la relation à l'autre ou de l'accompagnement, d'où ma présence ici aux côtés de Tanguy Châtel. Alors concrètement, dans nos pratiques hospitalières, les questions, vous les connaissez, on l'a dit ce matin, c'est de qui relève la prise en charge et la coordination de soins, par exemple, d'une patiente atteinte précocement à 54 ans d'une maladie d'Alzheimer, qui cumule par ailleurs une maladie ulcéreuse, un eczéma, un retard de prévention globale, en perte d'emploi liée à la maladie, avec couverture sociale sans possibilité de mutuelle complémentaire et impossibilité de soins de ville compte tenu du contexte. De qui relève également le jeune de moins de 27 ans, isolé, gagnant un SMIC à temps partiel, bénéficiaire de la CMU sans complémentaire et qui présente un surpoids majeur avec hypertension artérielle nécessitant un suivi métabolique et diététique. On pourrait continuer la liste, donc je vous en donne encore un, de qui relève la coordination des soins d'une patiente vivant en hôtel social, atteinte d'un cancer du pancréas et d'un diabète secondaire. Alors au mieux, dans certains cas, des médecins généralistes de ville s'impliquent avec qualité et parfois militantisme, mais dans certains cas, on le sait, et je pense qu'il faut dire très largement à nos institutions qui aujourd'hui tenteraient à nous faire dire que nous ne sommes pas du droit commun et qu'il faut renvoyer les patients dans le droit commun, on sait que ces patients ne retourneront pas vers la ville et rappeler que l'hôpital fait partie du droit commun. La complexité des situations aboutit en effet à une impossibilité matérielle à agir, manque de temps, manque de relais humain, avec de facto un refus de soins de ville pour des raisons économiques ou de discrimination non explicite. La question de la difficulté d'accès aux soins dans notre système de droit commun de ville est devenue une problématique d'ordre collectif. Vous en entendez parler tous les jours à la télévision et je pense qu'il faut faire le lien avec le débat sur les PASS. Parce qu'effectivement, elle ne touche plus uniquement la personne dans l'errance, l'étranger ou le marginal, Elle est une réalité vécue par 12 à 15% de la population selon les enquêtes, c'est-à-dire que tous les jours dans le métro, c'est une personne sur 10 que l'on croise. Et ce chiffre est à mettre en regard de celui des personnes qui vivent dans l'isolement social, sans proches disponibles, sans relais sociaux et sans liens affectifs. Donc en fait, rétablir l'accès aux soins, c'est aussi reconstruire le parcours de soins, on en est tous convaincus, assurer la prise de rendez-vous, mais aussi éviter l'abandon des corps et des âmes. Je vous rappelle que nous avons été les gagnants européens du mort par canicule. Abandon, le mot est donc à juste titre choisi pour sa force. Les institutions de santé, l'hôpital en particulier, doivent participer à ce questionnement, ne serait-ce que parce que dans notre imaginaire collectif, on ressent bien que les valeurs inscrites aux fonctions de nos institutions doivent continuer à avoir du sens. Assistance publique, égalité, fraternité. Le handicap, la souffrance, la vulnérabilité ne laissent personne indifférent. Mais ils nous font aussi peur, rappellent d'une inquiétude étrangeté. Ils s'exposent au grand jour nos faiblesses, mais aussi la fragilité de nos sociétés en termes d'entraide et de liens sociaux. Cacher ces situations, fermer la porte, ne pas voir, pourrait être une tentation de protection, mais en fait une forme de barbarie. A contrario, porter assistance est une force de civilisation qui soudre notre pacte social. La vulnérabilité nous interroge donc en permanence sur la nature de ce que nous devons faire et mettre en œuvre pour l'autre, le plus faible en général. Cette question est majeure pour les professionnels de santé, pour les organisations de santé, mais aussi pour notre démocratie. C'est en ce sens qu'est interrogée la place de l'interhumain. Dans ce contexte, l'interhumain est un terme qui vise finalement à englober la relation interpersonnelle, la nature du regard porté sur autrui et le sens des actions réalisées avec et pour autrui. L'interhumain passe directement par la rencontre, l'action, les individus, leurs échanges, et donc il est fait de temps, de compétences, de savoir-faire et de savoir-être. L'absence de dimension interhumaine dans un système, une organisation, une entreprise, une société, je ne vous citerai pas ici France Télécom, est la traduction de l'absence de sollicitude vis-à-vis de l'autre et traduit une rupture de la cohésion sociale, appelée certains par le passé fracture sociale ou rupture du lien social. Cette carence se double d'une atteinte à la dignité des personnes, puisque pour être digne, il faut être digne d'eux, digne d'agir, digne de choisir, digne d'espérer. Autant de dignités qui peuvent être déniées à travers la non-accessibilité aux soins, dès lors que le corps et l'esprit ne sont pas en situation de bien-être. Ainsi, refus de soins, impossibilité d'accès aux soins, soins inégaux, sont autant de situations qui doivent nous interpeller et renvoyer à notre responsabilité, à la fois sujet et spectateur de la vulnérabilité humaine. Mais elle renvoie aussi à la question politique de la place que l'on fait à l'interhumain dans notre société et nos organisations médicales et médico-sociales. J'espère que les murs de cet amphithéâtre sont un peu ouverts sur l'extérieur. C'est là une question essentielle. Elle doit nous amener à rappeler, à souligner deux choses. D'abord, que le soin est fondé non seulement sur une compétence technique, acte technique qu'il faut revendiquer, qu'il faut défendre, car et on ne verrait pas d'inégalité de soins fondée sur une inégalité d'accès au plateau technique, mais aussi, et c'est tout l'enjeu des PASS, une présence et une compétence relationnelle, l'acte de relation. Quand je dis que c'est tout l'enjeu des PASS, et c'est là aussi la réflexion collective, c'est notamment l'enjeu de tout le système de santé et de tout le système hospitalier en particulier. Par ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, la médecine et l'éthique du care se croisent. Certes, mais que croisent-elles, et on l'a vu dans mon propos liminaire, elles croisent aussi la logique de gestion économique à l'œuvre dans notre société. Mon but n'est pas d'être un garçon irresponsable et de dénier le fait économique, mais en tout cas, la répartition des ressources doit être l'œuvre non pas d'un débat technocratique, mais d'un débat démocratique. Le CARE désigne une prise de position éthique et politique relative à la société du soin. Qu'attend-on de la société du soin ? Que l'ensemble des aides et des soins apportés en réponse concrète aux besoins des autres dans des économies formelles soient débattus. Aujourd'hui, si l'efficience et la contrainte économique doivent être prises en compte, Il s'agit là d'un acte de responsabilité. Il faut cependant démocratiquement poser la question des standards et des règles d'allocation des ressources en regard des valeurs et des choix de la société que l'on souhaite. À ce titre, la vulnérabilité, la dépendance, l'exclusion devront nous faire penser de nouveaux modèles. C'est donc bien d'un choix de civilisation dont nous parlons, et nous ne sommes pas pour rien dans un amphithéâtre qui porte le nom de M. Larocque. Des éléments forts font espérer. De nombreux travaux sur les valeurs du soin montrent ces dernières années dans le monde des soignants, et il ressort que le regard sur la normalité change avec des aspects positifs, et vous en êtes et nous en sommes l'illustration. De plus en plus de soignants, de travailleurs sociaux, la dépendance et la vulnérabilité les côtoient au quotidien comme des situations qui font partie du possible de toute existence et qui nous reviennent en miroir pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Ces situations peuvent toucher nos amis, nos très très proches, nous-mêmes à tout moment, d'autant plus avec l'espérance de vie qui s'allonge et l'économie des nations qui se fragilise. Pour les soignants et les travailleurs sociaux, les valeurs éthiques du soin évoluent et s'occuper des états d'une vulnérabilité devient une des dimensions de la pratique clinique de plus en plus revendiquée et, je l'espère, de plus en plus valorisée. Non seulement défendue, mais elle est aussi recherchée par certains professionnels et ceci est tout à fait rassurant. Le but n'étant plus la guérison, mais l'accompagnement. C'est un tournant conceptuel de la médecine intégrant une forte dimension médico-sociale. L'accès aux soins est donc aussi un accès à un droit, à la relation, à la compréhension. Vu sous cet angle, la défense des droits des patients par ces professionnels repose sur la défense du lien social et sur la mise en action du principe de solidarité. Dans cette perspective, un des travaux de recherche que je suis en train de mener avec mon équipe, en cours de publication, souligne aujourd'hui que les professionnels du soin, confrontés aux états de dépendance, pensent de plus en plus leurs compétences, non seulement en termes techniques, je l'ai dit, mais en termes de savoir-être. Le vrai enjeu de ces programmes de recherche et d'évaluation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, comment faire remonter ces données auprès des décideurs. Et même s'il faut acter les tableurs Excel qui nous sont demandés, il est incontestablement un effort à fournir dans les années à venir sur des travaux de recherche et d'évaluation qui permettent de faire remonter ce savoir-être et ce savoir-faire. Ce savoir-faire, il doit être reconnu comme incontournable, en particulier en regard des principes éthiques de l'éthique, des principes de l'éthique définis par Childress et Beauchamp. Parmi ces principes, il y a savoir gérer le respect de l'autonomie, les vignettes cliniques nous l'ont montré tout à l'heure, et également savoir construire une décision en rapport avec l'histoire de vie de chacun, savoir agir en fonction de la bienfaisance qui réfère là à la défense de la personne, agir en accord aussi avec le concept de justice qui vise à la répartition équitable des actes et des moyens en regard des besoins de ces personnes. Cette évolution de la place du savoir-être comme acte de soin n'est pas sans rappeler les écrits de la philosophe américaine Anya Jaworska, qui a beaucoup travaillé dans le champ de la maladie d'Alzheimer et qui souligne l'impératif de rechercher l'autonomisation des personnes malades en s'appuyant sur l'action de coordination de soins en codécision avec les patients. Elle souligne que la juste coordination du soin ne peut ignorer la façon dont le patient va se l'approprier, vivre avec et l'accepter, et que cela passe donc avant tout par l'acte de relation et avec une très belle expression, l'intrusion douce et respectueuse dans la vie et dans l'histoire du patient. Elle défend et conceptualise ainsi la plus-value de l'interhumain dans l'efficience du soin et du système de santé. Et cette dimension, cette conception de la dignité, réside en effet dans notre volonté de préserver ou de redonner la capacité à un patient de faire des choix. Pouvoir choisir la façon de se soigner est un acte de dignité. Regardez ce que nous faisons chaque fois qu'un de nos proches est malade. Nous demandons le double avis, décrochons notre téléphone pour appeler notre plus proche collègue hospitalo-universitaire ou collègue praticien hospitalier. Dès que ce droit est dénié, naît une forme de souffrance intérieure auprès de la personne malade. C'est tout le sens et l'esprit de la coordination du soin à organiser. Et puisqu'on faisait appel aux lois, tout à l'heure, il est assez étonnant de voir que l'on a pu programmer la loi du 4 mars 2002 dans toute sa vision incantatoire et mirifique, et de voir le décalage qu'il peut exister sur le terrain en termes de droits des patients. Alors, puisque le gros réveil se met à sonner et que je ne veux pas faire meugler la vache, je vais conclure. La dynamique d'accompagnement et la dynamique relationnelle tiennent donc une place majeure qui est démontrée. Coordonner le soin pour des personnes dites dépendantes, en perte d'autonomie ou en situation d'exclusion, s'est accompagné un processus de libération, fut-il partiel, fut-il hypothétique, fut-il irréalisable. Il faut insister sur cet irréalisable qui est cette part de rêve qui nous anime tous. Comment réagirait-on chacun d'entre nous si on nous disait que rien n'est possible, que rien ne peut se faire ? Il y a une différence entre ne rien tenter et ne rien faire. C'est essayer avec la personne de faire advenir dans le monde qui est le sien des nouveautés, quelque chose qui n'aurait pas existé sans une relation avec les soignants et les travailleurs sociaux. Tous ces éléments de réflexion soulignent l'importance de développer les compétences du soin en termes de relation à l'autre et de coordination, au même titre que les compétences techniques, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais nous sommes dans une société où les progrès de la science et des biotechnologies procurent des avancées incontestables et heureuses en médecine, qui font souvent la une du média, mais qui peuvent aussi faire écran aux réalités que nous discutons ici. Il faut donc prendre garde de ne pas laisser le paradigme de la médecine comme acte social et de relation être occulté par les succès des technosciences, fussent-ils tous méritoires. La médecine ne doit pas apparaître uniquement comme un moyen de réparer un corps dans une dynamique que ne serait que mécanique de type homme-machine, mais doit continuer à évoluer comme une pratique sociale qui prend en compte la singularité de chacun en termes de psychisme et d'histoire de vie. Les réponses se construisent avec la personne elle-même et avec son environnement dans une dimension globale. C'est sans doute ce savoir-faire que peuvent porter, entre autres, les acteurs de la médecine sociale et des permanences d'accès aux soins. Ainsi, la question des moyens collectifs à mettre en œuvre dans la dimension interhumaine du soin devient une question conséquentielle fondée, en particulier au sein de ce ministère. Les acteurs médicaux et sociaux doivent recevoir des messages plus clairs de leurs autorités en ce sens et au-delà des messages, des actes. Le cas échéant, derrière l'abandon des populations les plus vulnérables, amenant à la désocialisation, une déshumanisation nous guette. La réflexion éthique n'est pas alors théorique, elle découvre son lieu d'expression dans la vie quotidienne et fonde une vision humaine de santé publique. Je vous remercie.